Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Quelles seront les conséquences du Brexit sur l'économie du Royaume-Uni, mais aussi sur la vie de tous ces Britanniques qui ont choisi de s'expatrier dans un autre pays européen? C'est le cas de 300 000 sujets de Sa Majesté, retraités ou entrepreneurs qui vivent en Espagne et surtout dans le sud, sur la Costa del Sol. Leur vie risque de devenir beaucoup plus compliquée après le Brexit. Pour défendre leurs intérêts, ils ont donc constitué une plateforme Brexpat. Laurent Berthaud est allé les rencontrer.
Right, are we ready for the show then? Yes. Dean Swift as Gary Barlow.
Et c'est parti pour deux heures de tube anglo-saxon au café Legends de Mijas, ville côtière où résident pas moins de 11 500 Britanniques. Pinte de bière à la main, les clients ne boudent pas leur plaisir. On pourrait se croire dans un pub quelque part en Angleterre. Alors à la pause, quand on parle du Brexit, ces deux jeunes femmes venues fêter un anniversaire préfèrent se montrer optimistes quand on leur demande si cela les inquiète.
Non, parce que je pense que ça va prendre de 2 à 10 ans et je pense que les autorités espagnoles vont protéger les résidents qui sont ici depuis longtemps. Vous savez, j'ai des enfants ici et non, je ne suis pas inquiète.
Si tout le monde quitte la Costa del Sol, alors il n'y aura plus d'avenir pour la région, car il y a bien trop d'expats ici. Moi, je travaille dans une école internationale. Si on part tous, il n'y aura plus d'école. Pareil pour les cafés, les restaurants, on reviendrait 60 ans en arrière. Donc je pense qu'on est protégé.
Glenn et Catherine Hamilton, la soixantaine, sont loin d'être aussi confiants. Ces retraités ont tiré un trait sur leur vie anglaise et acheté un petit appartement en périphérie de Mijas.
Tout autour, on a la campagne. Le seul bruit qu'on a, c'est quand les chèvres descendent la colline et qu'on entend leurs cloches. On a acheté cet appartement il y a 11 ans pour venir en vacances et on est venu y prendre notre retraite il y a 9 ans. Dans cette résidence, on trouve toutes les nationalités, des Espagnols, des Allemands, des Danois, des Argentins, des Suédois, des Finlandais. Mais il n'y a que 10 familles qui vivent là à l'année. Le reste, c'est pour les vacances.
C'est beaucoup moins cher de vivre ici qu'en Grande-Bretagne.
Oui, dans notre appartement, on payait plus de 1000 livres de charges par mois. Ici, on paie moins de 300 livres par an. Et pour les courses, c'est beaucoup moins cher, à condition d'aller dans les magasins espagnols.
À aucun moment, ce couple de retraités n'a regretté ce choix, surtout lorsque Catherine a dû se faire hospitaliser.
Au Royaume-Uni, il faut attendre 2 semaines pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Ici, c'est du jour au lendemain, voire le jour même. Et puis, les hôpitaux sont neufs, construits grâce à l'argent européen. En Angleterre, tout est vétuste. Le système hospitalier espagnol est vraiment bon.
Mais depuis le vote en faveur du Brexit, Kathleen et Glenn sont inquiets. Pourront-ils encore bénéficier d'une assurance maladie en Espagne? Que se passera-t-il si la livre décroche encore par rapport à l'euro? Comment vivre avec une retraite diminuée? Même inquiétude du côté des actifs. Richard Barnell vit et travaille depuis 40 ans en Espagne et il redoute le pire, à savoir...
Que ça devient comme il était avant l'Union européenne. Parce que je me souviens de ce qu'on devait faire chaque 5 ans pour préparer la résidence. Il fallait montrer des preuves, des revenus, de l'assurance privée, toutes les différentes choses que ça fait tellement longtemps maintenant qu'on ne le fait plus. C'est tellement plus facile.
Autant de questions qui ont incité 1500 personnes à rejoindre le groupe de défense des expatriés britanniques en Espagne, Brexpats, dont Anne Hernandez est la porte-parole.
Nous, on ne peut donner aucune information précise sur l'impact du Brexit dans nos vies quotidiennes, car on n'en saura rien tant que l'article 50 ne sera pas déclenché. Nous ne sommes pas des experts, c'est pourquoi nous avons cherché à en identifier dans tous les domaines qui pourraient être concernés par ce Brexit. La retraite, la finance, la banque, la santé, l'éducation, la propriété, en priorité, tous ces secteurs qui pourraient être touchés par cette décision.
You should have strosmer. You should have kissing him.
Alors, dans l'incertitude, certains Britanniques préfèrent assurer leurs arrières et envisagent de demander la nationalité espagnole, comme Anne Hernandez.
Oui, je pense que je vais la demander, ma fille aussi. Il y a plusieurs conditions pour l'obtenir. Soit être marié à un ou une Espagnole, soit avoir l'un de vos parents espagnols ou être né en Espagne. Mais sinon, vous devez passer un examen, ce que je vais faire. C'est la seule façon pour les Britanniques de conserver leurs droits en tant que citoyens européens.
Un examen qui exige de maîtriser la langue espagnole. Richard Barnell propose désormais des cours pour ses candidats à la nationalité espagnole.
On a des appels presque tous les jours, on a des emails, on a même des gens qui veulent faire le cours par Skype et ils veulent perfectionner parce qu'en fait, pour avoir la nationalité espagnole, il faut faire deux examens. Ça veut dire qu'on doit pouvoir parler couramment l'espagnol, mais en plus, on doit avoir une idée d'une culture, de la gastronomie, de l'histoire, de la géographie. Et le cours qu'on a créé, c'est pour préparer les gens au cas où.
Un choix radical pour ces Britanniques, car la loi espagnole ne permet pas la double nationalité. C'est notamment pour abroger cette disposition et pour peser sur les négociations qui vont s'ouvrir après le déclenchement de l'article 50 que Brexpats a entamé un travail de lobby auprès des gouvernements espagnols et britanniques.
Et pour informer les Britanniques sur les conséquences du Brexit, une lettre d'information intitulée « The New European » lancée par des pro-européens a vu le jour en Grande-Bretagne. Au départ, il ne devait y avoir que 4 numéros, mais le numéro 17 est dans les kiosques, histoire d'un succès avec Marie Billon.
Le tout premier numéro de The New European n'a certainement pas fait rire les eurosceptiques. On y voit un couple affalé sur un canapé, tandis que leur chien s'inquiète des conséquences du Brexit. Ces idiots qui ont voté pour l'incertitude et l'isolement, peut-on lire dans la bulle comme une BD ? On se doute que le couple avachi fait partie de ces idiots. The New European se veut être le journal des 48% de pro-européens, explique la maison d'édition, qui l'a créé très vite, une petite semaine après les résultats du vote. Elle estime que la presse britannique, majoritaire pro-Brexit ne les représente pas. Il ne devait durer que 4 numéros, mais devant son succès en kiosque, plus de 40 000 exemplaires vendus pour la première édition, on rallonge le plaisir. Le bimensuel affiche son point de vue et ses objectifs. Premièrement, célébrer la culture européenne, profiter d'être européen tant qu'on l'est encore. Deuxièmement, offrir une analyse en profondeur du processus du Brexit. Et troisièmement, discuter des implications et des conséquences du Brexit, avec des articles un peu masochistes qui semblent juste retourner le couteau dans la comme « Dix libertés que le Brexit destructeur ôterait aux citoyens britanniques » ou « Pourquoi le Brexit est la dernière chose dont notre système de santé en difficulté a besoin ». Mais le journal essaie aussi de mettre les choses en perspective. Parfois, il y a un juste milieu dans la grande division du Brexit, titre un édito. Le journal n'est pas là pour rassurer les pro-européens et calmer leurs peurs. Au début, les politiques étaient bannies. Maintenant, Tony Blair, le plus détesté des ex-premiers ministres, y écrit pour demander un nouveau référendum. Des études continuent aussi de tester l'opinion des Britanniques. Le but est de voir comment ils voteraient s'ils étaient à nouveau appelés aux urnes.
Pour la première fois, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, accusé de viol en Suède, a été entendu par la justice. 4 heures d'interrogatoire menées hier conjointement par un procureur équatorien et une consœur suédoise dans les locaux de l'ambassade d'Équateur où il a trouvé refuge depuis 2012. Pour en parler, on retrouve Muriel Delcroix à Londres. Serait-ce le début de la fin d'une longue saga judiciaire, Muriel ?
C'est difficile à dire tant l'affaire Assange a connu de rebondissements, mais c'est en tout cas une avancée très importante et les différentes parties se sont félicitées de ce déblocage. Après 2 tentatives avortées en juin 2015 et janvier 2016, la Suède et l'Équateur ont longuement négocié les conditions de l'interrogatoire de Julian Assange. L'Équateur a imposé que ce soit un procureur équatorien qui pose les questions, même si celles-ci sont suggérées par les enquêteurs suédois. Le cyberactiviste australien âgé aujourd'hui de 45 ans dit vouloir une chance de laver son honneur face aux accusations de viol dont il fait l'objet depuis 2010. Les autres faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés sont eux prescrits depuis août 2015. S'il accepte, un prélèvement ADN sera effectué aujourd'hui et en fonction des résultats de l'interrogatoire, le parquet suédois décidera ou non d'inculper Julian Assange.
Cela fait 4 ans que Julian Assange a trouvé refuge dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Rappelez-nous pourquoi il refuse d'en sortir.
Alors, le fondateur de Wikileaks a demandé l'asile à l'ambassade d'Équateur en juin 2012 après avoir épuisé tous les recours formés devant la justice britannique pour éviter son extradition vers Stockholm. Techniquement, il est libre de partir, mais en fait, il refuse de le faire car il a enfreint le mandat d'arrêt européen lancé par la Suède pour l'extrader et il sait qu'il sera arrêté s'il sort de l'ambassade. Il faut rappeler que Julian Assange n'a à aucun moment été inculpé par la Suède qui cherchait d'abord à l'interroger après la plainte déposée par 2 femmes en 2010, mais l'Australien dit soupçonner la Suède de vouloir l'extrader vers les États-Unis où là il risquerait d'être jugé pour espionnage. Mais cette théorie du complot ne tient pas en fait selon certains commentateurs qui expliquent que l'accord d'extradition entre la Suède et les États-Unis ne couvre pas les délits relatifs à un délit politique dont l'espionnage fait partie.
Julian Assange se dit victime d'une détention illégale et injuste. Ce combat a-t-il beaucoup d'écho au Royaume-Uni ?
Non, les Britanniques n'ont que très peu de compassion en fait pour Julian Assange. Ils se sont vite lassés d'une saga qui semble interminable et ils n'apprécient pas les coups d'éclat hautement médiatisés d'un homme qui refuse de faire face à la justice et se plaint de son sort en oubliant, selon eux, un peu vite qu'il s'est enfermé de son plein gré dans une prison dorée au sein d'une ambassade cossue dans le luxueux quartier de Knightsbridge. Surtout, les fuites orchestrées par Wikileaks pendant la campagne présidentielle américaine de milliers d'emails du directeur de campagne Hillary Clinton ont été perçues comme un acharnement contre la candidate démocrate et ont avantagé son adversaire républicain élu mardi dernier. Or, la majorité britannique ne porte pas Donald Trump dans leur cœur et les appels des supporters de Trump à accorder un pardon présidentiel cette fois à Julian Assange pour avoir aidé à sa victoire ne contribuent pas à le faire remonter dans l'estime générale.
Quant à l'ancienne taupe de l'armée américaine Chelsea Manning, qui a transmis près de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks, elle a demandé au président Barack Obama de réduire sa peine avant son départ de la Maison Blanche. Cette militaire transsexuelle de 28 ans a été condamnée à 35 ans de prison. Pas facile pour l'agriculture européenne de digérer l'embargo russe sur les produits alimentaires, une mesure décidée par Moscou pour riposter aux sanctions imposées par Bruxelles à la Russie après l'annexion de la Crimée. Pour les agriculteurs belges, 2 ans après le début de l'embargo, la situation est toujours aussi tendue. C'est le reportage de Sandro Calderon de la RTBF.
Plusieurs filières sont touchées, les producteurs de lait, la filière porcine ou encore les producteurs de pommes et de poires. Commençons par eux. Nous voilà dans un verger dans le Limbourg, entre Saint-Tron et Tongres, c'est dans l'est de la Belgique. Il appartient à Tony Derwal. Il est producteur mais aussi exportateur. Il se souvient encore très bien du sentiment qui a envahi sa filière lors de l'instauration de l'embargo russe.
Ça a donné une situation de panique, naturellement.
En 2014, les producteurs de pommes et de poires belges ont tout simplement perdu leur principal client. Sur les 350 000 tonnes de poires produites chaque année en Belgique, la moitié partait vers la Russie, tout comme un quart des 300 000 tonnes de pommes belges. Le coup a été dur. Depuis 2 ans, les agriculteurs tentent de garder la tête hors de l'eau. C'est pas évident, les prix de vente ont baissé, mais pas les volumes de production. Ils ont donc cherché de nouveaux marchés, notamment pour les poires, mais ça prend du temps, beaucoup de temps.
On a essayé le Canada, mais c'est très difficile, parce que les gens, ils ont des fruits assez, en général. Donc, ils doivent, premièrement, reconnaître le produit, et alors, après, ils doivent connaître le goût. Acheter des fruits, c'est une habitude, hein. Ça, c'est le problème. Le Canada, la Chine, on a trouvé l'année passée, on a fait, en général en Belgique, on a fait 7000 tonnes pour la Chine. Mais vous comprenez aussi que c'est uniquement 5% du volume.
C'est évidemment largement insuffisant pour écouler toute la production de poires belges. Mais ensuite, Tony Derwal reconnaît, sans trop de gêne, que l'embargo russe a quelques ratés.
Heureusement qu'on a trouvé la Russie encore par les autres pays. Et on a trouvé des trous encore pour entrer dans la Russie.
Vous avez contourné l'embargo.
Voilà, Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile.
Selon certaines estimations, la moitié des exportations vers la Russie ont ainsi été rétablies. Cela dit, Tony Derwal préférerait passer par des filières légales. Voilà pourquoi il a placé une banderole à l'entrée de sa société d'exportation. On peut y lire en flamand « Politiciens, rendez-nous la Russie ».
Cette fille-ci, vous commencez à mettre bas la semaine prochaine. Elle reste dans la cage ici pour se préparer à la mise bas.
Mais ce message, on peut l'entendre également côté wallon, dans la filière porcine entre autres. Christian Royen est éleveur de porc dans le pays de Herve, là aussi dans l'est de la Belgique. Il possède avec son père et son frère une petite porcherie. Ils y élèvent un peu plus de 200 truies qui procréent en permanence et des porcelets aussi qui restent là un petit temps avant d'être engraissés ailleurs. Lui aussi se dit victime de l'embargo russe avec une baisse des prix de vente, là aussi. Et c'est d'autant plus embêtant que la filière porcine était déjà dans le rouge depuis plusieurs années. Alors pour éviter la faillite, Christian Royen et les siens ont décidé de nouer un partenariat.
On est obligé d'essayer de trouver des accords et des partenariats avec les meuniers pour essayer soit de pouvoir étaler des dettes, pouvoir travailler en collaboration avec eux, pour pouvoir partager aussi bien les pertes que les bénéfices à un moment donné et ne pas continuer à s'enterrer. Il vaut mieux gagner peut-être un petit peu moins quand ça gagnera, et perdre moins quand on perd et pouvoir partager le risque.
En attendant, pour éviter que la crise que traverse la filière ne s'aggrave, Christian Royen, comme beaucoup de ses collègues, lance un appel aux dirigeants européens.
De pouvoir arrêter au plus vite cet embargo, ou alors si on n'a pas de solution à ce niveau-là, qu'au moins l'Europe intervienne dans les pertes qu'il y a chez nous, puisqu'on a en fait servi de monnaie d'échange dans un conflit dans lequel nous on n'a rien à voir, on a pris des rétorsions en faveur de la Russie. Donc à ce moment-là, toute l'Europe a pris la responsabilité, mais que l'Europe prenne la responsabilité d'aider les agriculteurs qui sont dans la difficulté à cause de ça.
Une dernière précision, en théorie, l'embargo russe est censé durer jusque fin 2017.
On ne compte plus que quelques milliers de Juifs en Moldavie quand au début du XXe siècle, ils étaient 60 000, soit la moitié de la population du pays. Une petite communauté qui veut sauvegarder les traces de son passé. À Chișinău, la capitale moldave, on retrouve Julia Burke.
À Chișinău, le centre culturel Idzik Manger est un lieu incontournable. Situé sur le territoire de l'ancien ghetto, de nombreux intellectuels juifs avaient pris l'habitude de se retrouver ici, juste après l'indépendance de la Moldavie en 1991, pour tenter de préserver leur culture et leurs traditions. Au fil des années, la bibliothèque publique du centre a acquis une importante collection de livres rares sur le judaïsme, en russe, roumain et yiddish. Un trésor, alors que le dernier écrivain moldave de langue yiddish s'est éteint il y a 10 ans. Une petite pièce, un peu sombre, fait aussi office de musée. Pêle-mêle, on y trouve quelques objets hétéroclites. Un morceau de bois provenant de la plus vieille synagogue du pays. Le décor reconstitué d'une ancienne cafétéria juive de Chișinău et un gramophone qui peine à diffuser un air de musique traditionnelle. Autant d'objets et de photographies témoignant de la richesse d'une vie culturelle qui a disparu avec la déportation et l'extermination de plusieurs dizaines de milliers de juifs en 1941. À l'époque, il y avait 77 synagogues à Chișinău. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. La petite communauté juive de Chișinău tente aussi de récupérer certains bâtiments qui ont été nationalisés par les autorités soviétiques. Après plusieurs années de discussions avec la mairie, elle a pu racheter l'une des plus grandes synagogues de la capitale. Ce bijou architectural, classé au patrimoine historique, est en ruine depuis le tremblement de terre de 1977. Seule une rénovation imminente pourrait l'empêcher de s'effondrer. Ce qui semble peu probable, puisque le montant de la restauration est évalué à 5 millions d'euros.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité sur nos antennes.
Autour de la